VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, 11h temps universel, l'épouse du président nigérian Muhammadu Buhari est revenue ce mardi à Lagos après une courte visite à son mari en traitement médical à Londres, indiqué son secrétariat. Aïcha Buhari avait quitté le Nigeria mardi dernier pour passer un peu de temps avec son mari âgé de 74 ans, parti le 7 mai pour un congé médical au Royaume-Uni et sur la santé duquel aucune information n'a été apportée. Les causes de sa maladie n'ont pas été dévoilées, mais il a semblé extrêmement affaibli lors de ses dernières apparitions publiques. Une aide de 50 millions d'euros va être attribuée aux pays du G5 Sahel pour créer une force conjointe afin de lutter contre la menace djihadiste. La proposition initiale de création d'une telle force remonte au sommet du G5 Sahel de novembre 2015 à N'Djamena au Tchad. Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a indiqué que les effectifs prévus pour cette force avaient récemment été doublés de 5 000 à 10 000 hommes par les chefs d'État du G5 Sahel, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad. Federica Mogherini, la chef de la diplomatie de l'Union européenne, vous allez l'entendre, a fait le déplacement de Bamako pour annoncer la bonne nouvelle.
Pour nous, c'est clair signal de la volonté des pays de G5 Sahel. Nous pensons que c'est le bon choix à faire. Une force conjointe avec une très forte coopération régionale et une forte coordination avec les autres opérations qui sont présentes sur le territoire est, nous pensons, la seule, la meilleure façon de faire face soit au défi du terrorisme, mais aussi le contrôle du territoire quand il s'agit de combattre le trafic de toutes sortes, que ce soit de drogue, d'armes ou d'êtres humains.
Federica Mogherini, la chef de la diplomatie de l'Union européenne.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'Algérie, l'Égypte et la Tunisie ont réitéré mardi à Alger le rejet de toute ingérence et de l'option militaire en Libye et réaffirmé leur attachement à une résolution politique du conflit. Selon l'agence algérienne APS, Tunis, Alger et le Caire sont préoccupés par l'insécurité à leur frontière avec la Libye, devenue un pays de transit à la fois pour les groupes djihadistes, pour les trafiquants d'armes et pour de nombreux migrants souhaitant rejoindre l'Europe. À l'issue d'une réunion dans la capitale algérienne, les ministres des Affaires étrangères des trois pays ont adopté la déclaration ministérielle d'Alger en faveur d'un règlement inclusif en Libye, explique APS. Le dossier de ce journal nous conduit au Sénégal. Le gouvernement vient d'adopter un projet de loi sur la médecine traditionnelle. Cette loi va permettre de réglementer l'exercice et la pratique de la médecine dans ce pays. La médecine traditionnelle s'entend où le débat sur sa nécessité et surtout son efficacité continue de faire rage. Sédina Abagay nous en dit plus.
Pratique très prisée par les Sénégalais, la médecine traditionnelle est cependant très mal acceptée par les professionnels de la santé. Amadou Maktar Gueye, infirmier d'État, étale les limites de ses usages.
Ils ne sont pas outés. Cependant, ils passent toujours à côté du diagnostic. Il faut des appareils et des techniciens de laboratoire pour poser le diagnostic. Une seule personne ne peut pas traiter plusieurs affections. Les affections des yeux, les affections des poumons, de l'appareil urinaire, tout ça. Une seule personne qui dit qu'il peut soigner toutes ces affections-là, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible.
Pour leur défense, les tradipraticiens comme Salif estiment que leurs services sont très fiables.
Nous vendons des produits qui sont bons et strictement contrôlés avant leur vente. Il y a un mode d'emploi pour chaque médicament, c'est au client de les respecter. Nous avons des produits pour guérir les hémorroïdes, la faiblesse sexuelle, les problèmes dermatologiques, la fatigue générale, etc. Nos clients nous sont toujours fidèles, ce qui montre la qualité de nos services.
Ce débat se transpose également chez le Sénégalais lambda. Alou Seynou Diallo est foncièrement contre la médecine traditionnelle. Pour lui, rien n'est garanti avec ces produits non conformes aux réglementations.
C'est pas une question de superstition, mais une question de sécurité. Il y a un dosage dans les médicaments. Et même si ces médicaments traditionnels parviennent à guérir, le dosage n'est pas bon. Parce qu'on donne une bouteille, on demande de prendre toute la bouteille sans dosage, sans rien du tout. J'ai connu une personne qui a eu des problèmes de rein à cause de cela. Parce qu'il a utilisé mal les médicaments traditionnels qu'on lui avait donnés.
Même s'il reconnaît quelques limites à la médecine traditionnelle, Cheikh Moussa Sarr estime que cette pratique peut être bénéfique pour certaines personnes.
J'utilise de la médecine traditionnelle, mais pour juste certaines maladies. Et je peux dire, comme l'endocrite, tu vois que le traitement en ce qui concerne la médecine coûte trop cher. Et si on utilise par exemple la médecine traditionnelle, on peut vraiment se guérir de cette maladie. Mais le problème, c'est que parfois ça nous amène des complications comme la diarrhée et autres. C'est pourquoi je ne l'utilise pas pour toutes les maladies, mais j'utilise quand même la médecine traditionnelle, mais juste pour traiter ce qu'on appelle l'endocrite en Wolof.
La médecine traditionnelle présente certes des dangers, mais son accessibilité la rend très attractive pour beaucoup de personnes. Même si ses limites médicinales sont connues de tous, elle ne cesse de s'imposer comme un moyen de traitement plus ou moins efficace. Le projet de loi récemment adopté par le gouvernement du Sénégal permettra sans doute de réglementer cette pratique et d'en tirer le meilleur profit. À Dakar, pour VOA Afrique, Seydina Abagui.
La croissance de l'Afrique du Sud, économie la plus industrialisée du continent, a reculé de 0,7% au premier trimestre selon les statistiques officielles publiées ce mardi. Un deuxième trimestre consécutif dans le rouge qui plonge donc le pays dans la récession pour la première fois depuis 2009. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a indiqué aujourd'hui attendre d'ici deux jours des engagements de la République démocratique du Congo sur des investigations sur les violences dans la province du Kasaï, brandissant la menace d'une enquête internationale. Monsieur Zeid, qui réclame depuis mars la création d'une commission d'enquête du Conseil sur les violences en RDC, après la découverte notamment de charniers, s'exprimait à l'ouverture de la 35e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Depuis septembre, la région du Kasaï est secouée par la rébellion de Kamuina Nsapu, chef traditionnel tué en août 2016 lors d'une opération militaire après s'être révolté contre les autorités de Kinshasa. Selon l'ONU, ces violences ont fait plus de 400 morts et causé le déplacement de 1,3 million de personnes. Le Royaume-Uni a observé ce mardi à 11h, heure locale, 10h GMT, une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat perpétré samedi en plein cœur de Londres et revendiqué par le groupe djihadiste État islamique qui a fait 7 morts. Le drapeau était en berne sur les bâtiments officiels et devait le rester jusque dans la soirée. Par ailleurs, l'AFP annonce que le troisième auteur de l'attentat de samedi à Londres était Youssef Zagba, un Italo-Marocain de 22 ans repéré et signalé par les services de renseignement italiens, d'après les quotidiens Corriere della Sera et Repubblica. Les autorités britanniques ont révélé hier l'identité de deux des trois auteurs de l'attentat, mais aucune confirmation officielle n'a encore été donnée pour le troisième. Le Kremlin a démenti fermement ce mardi les informations d'un média américain qui affirme sur la foi d'un document top secret de la NSA que des pirates informatiques du renseignement militaire russe ont tenté de s'introduire dans les systèmes électoraux américains avant la présidentielle de 2016. Ces affirmations ne correspondent pas à la réalité, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Nous démentons fermement toute possibilité que cela ait pu avoir lieu, a-t-il ajouté.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Début de l'assaut pour prendre le bastion djihadiste de Raqqa en Syrie, la force démocratique syrienne FDS, formée de combattants arabes et kurdes et soutenue par Washington, sont entrés aujourd'hui par l'est de Raqqa, principal bastion du groupe djihadiste État islamique, ont indiqué un commandant FDS et une ONG. Nos forces sont entrées dans le quartier de Meshleb, dans l'est de la ville, a déclaré à l'AFP le commandant des FDS, Rojda Felat. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, a confirmé cette entrée dans le secteur où elles ont pris le contrôle de plusieurs bâtiments. Les rebelles et leurs alliés du Yémen ont accusé de partialité le médiateur de l'ONU, Ismaël Ould Cheikh Ahmed, et l'ont déclaré persona non grata à Sanaa, la capitale qu'il contrôle. Nous adressons au secrétaire général de l'ONU pour lui dire que son émissaire est désormais indésirable, a déclaré Saleh Al-Samad, le président du Conseil politique suprême mis en place par les rebelles à Sanaa après leur coup de force en 2014 contre le pouvoir du président Abdrabo Mansour Hadi. Le conflit au Yémen a fait plus de 8 000 morts et 45 000 blessés depuis 2 ans selon l'ONU. Et puis le président afghan Ashraf Ghani a lancé aujourd'hui un ultimatum aux talibans, les appelant à saisir la dernière chance pour la paix quelques jours après un attentat dévastateur dans la capitale dont le bilan dépasse désormais les 150 morts. Prochain rendez-vous dans 50 minutes avec Henri Francisque.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.